L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve en ce 29 août. Et oui, c'est la rentrée pour l'atelier. Votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. Nous serons là tout au long de cette saison, 16h, 18h, avec toute l'équipe de l'atelier et quelques petits subtils changements que j'en suis sûr vous apprécierez. Autour de cette table, Lila Megraoua, Aurore Géraud, Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Nous retrouverons aussi dans quelques instants Nathalie Doré de l'atelier US, mais aussi Romain Chaperon, qui nous proposera son dossier. On évoquera le robot compagnon tout à l'heure avec Blue Frog Robotics et Rodolphe Hasselwander, qui sera notre invité depuis les USA. Notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré aussi, notre Cyber Gadget avec Antoine. Antoine qui nous a fait une petite sélection sympa. Antoine qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour, évidemment, le crash test. Et on découvrira un terme que vous n'évoquez peut-être pas souvent, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est assez récent, Antoine. Il s'agit du flexitarien.
Oui, le flexitarien. Alors c'est important dans la société moderne pour être bien considéré. C'est très important de savoir ce que c'est qu'un flexitarien.
Voilà. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ?
Eh bien oui, bah, le crash test vous le dira.
Voilà, ça sera en toute fin de ce rendez-vous. Nous irons aussi du côté de la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou. World Tour, French Tech Tour, nous irons à Brest. On évoquera avec Lila et nos invités le crowdsourcing, mais aussi le crowdshipping. Et puis voilà, vous savez tout. Ah, on évoquera aussi l'e-learning et les MOOC. Est-ce que la France est un pays bien placé dans le domaine des MOOC ? Eh bien, nous recevrons entre autres Jean-Marc Tassetto, qui est le dirigeant d'une société qui s'appelle Corp Academy, qui est un spécialiste du MOOC et de l'e-learning. Il nous en parlera dans quelques instants. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour cet atelier. Nathalie Doré, depuis l'atelier US, inaugure donc cette nouvelle saison de l'atelier avec votre news, Nathalie.
Oui, avec plaisir. Alors moi, je vais vous parler du monde des assistants personnels digitaux, qui vient de voir arriver un petit nouveau. Alors, petit n'est d'ailleurs peut-être pas le bon terme, car il s'agit tout de même de Facebook, qui dévoile dans un post cette semaine un nouvel assistant personnel qu'il a dénommé M. Alors, je vous laisse faire la blague sur James Bond, avec Q, M. Donc là, M, c'est plutôt comme Messenger.
Alors, c'est pas mal, c'est pas mal quand même, ça passe bien.
Alors, on connaissait Apple avec Siri, dans la même veine. On connaissait Google Now de Google, qui simplifiait votre vie en aspirant toutes les données de votre calendrier Google, de vos mails et puis de l'Internet, et qui vous donnait des conseils pour que votre journée se passe bien. On connaissait aussi Alexa d'Amazon, qui, elle, prend forme dans un objet connecté et qui vous simplifie la vie en répondant à toutes vos questions vocales. Alexa, quel temps fera-t-il demain ? Quel rendez-vous j'aurai ? Etc.
Alors, elle n'est pas encore arrivée en France. Il me tarde qu'Amazon la commercialise.
Alors, exactement. Alors, c'est déjà commercialisé aux US et on l'a testé. Donc, ça marche assez bien. Et puis, donc là, c'est David Marcus himself, donc l'ex-patron de PayPal, qui en dévoile un peu plus sur cet assistant qui est en cours de test, donc pas encore commercialisé, et qui se trouvera dans Messenger et qui va remplir des tâches pour vous ou répondre à vos questions. Alors, acheter un bien sur Internet, réserver un restaurant, par exemple. Alors, comme pour tous ces autres assistants personnels, puisque vous voyez que c'est pas le premier, tout cela se fait grâce au progrès de l'intelligence artificielle et la promesse, bien sûr, de ces grands acteurs du digital et de simplifier nos vies pour nous concentrer sur l'essentiel. Alors, se pose la question, bien sûr, de toutes ces données sur nos vies, nos goûts, nos envies, qui ont une valeur phénoménale pour ces acteurs qui ont basé leur modèle, d'ailleurs, sur la valorisation et la monétisation de la data.
Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Antoine, mon cher Antoine, quelle news avez-vous ? Attention, c'est la première news de la saison. Hein, donc, elle est importante, celle-là. Hein.
Elle est importante. Elle est importante alors que nous sommes nombreux,
Antoine,
tout cas.
Juste une chose, mais vous êtes très bronzé.
Assez, oui.
Excusez-moi, mais je viens de remarquer. C'est presque insolent, oui. Indécent. Oui. Que s'est-il passé ? C'est les Cévennes qui vous ont mis dans cet état-là ?
Mais naturellement, les Cévennes. J'ai fait le sentier des 4000 marches cet été.
Ah bon ?
Le sentier des 4000 marches.
Oui, parce que j'avais remarqué que vous aviez des jambes un peu plus musclées.
Ah, vous avez vu ? Oui. C'est pour ça que je
parce
suis
Parce qu'Antoine vient en short.
Oui, c'est pour ça voilà. Que je suis venu en short, d'ailleurs.
Ouais, donc, et ça se voit. Hein.
Le sentier des 4000 marches, c'est le sentier qui mène au sommet du Mont Aigoual, oui. Qui est le deuxième sommet des Cévennes et qui est une montagne très très sympathique et très on voit du Mont Blanc jusqu'aux Pyrénées. Partant très clair.
Oui, c'est vrai. C'est aussi un film effrayant, mais ça n'a rien à voir, hein, Cévennes. Bon, c'est pas grave. Donc, votre news.
Oh là là là.
Non, excusez-moi, Antoine. Excusez-moi.
Oh là là là.
C'est pas beau.
Bon. Donc. Donc, les autoroutes. qu'un certain nombre d'entre nous ont emprunté pour
c'est
pouvoir
vrai.
Aller faire
Exactement.
De la randonnée en montagne.
Et j'en connais aussi qui l'empruntent encore ce week-end, puisqu'en ce 29 août, vous êtes nombreux à prendre la route. Là.
Absolument. Et donc, l'Angleterre teste le rechargement des voitures électriques sur autoroute. On avait déjà parlé de concept de route capable de charger en continu les voitures électriques. Il y en a une qui fonctionnait à l'aide de panneaux solaires en bordure de route. L'autre, grâce à un système d'énergie haptique. Mais enfin, tout ça, c'était un petit peu un vœu pieux. C'était un peu de la théorie. Alors que les Britanniques, eux, sont en train de s'y mettre sérieusement. Et ça, mine de rien, ça va quand même beaucoup changer le paysage automobile.
Si j'ai bien compris, je roule. Oui. Et en même temps que je roule, la voiture se recharge.
Oui, parce qu'il y a un dispositif spécial que
oui,
vous avez dû
j'ai
monter.
Pas une rallonge qui est branchée.
Non, vous avez un dispositif spécial qui en fait doit fonctionner un peu comme les caténaires des trains.
Oui, hein, qui ou est l'induction
un,
peut-être.
Voilà, qui est donc un dispositif qui à partir de câbles électriques qui sont installés sous la chaussée, donc ça demande quand même un équipement lourd, hein,
ah oui.
Ça demande finalement à transformer un peu les autoroutes en autoroutes de l'information.
Exactement. Oui.
Et donc, grâce à donc ces câbles qui sont installés sous la chaussée, qui génèrent un champ électromagnétique capté par une bobine, ce champ électromagnétique est reconverti en électricité grâce à ce fameux dispositif dont devront être équipés les véhicules électriques. Alors c'est très sérieux, ça a été lancé annoncé à partir de décembre 2015 par la société de gestion des autoroutes britanniques Highways England. Ça a été confirmé par le secrétaire d'État au transport, monsieur Andrew Jones, et il y a donc pour l'instant un tronçon de 30 km qui va être testé.
D'accord. Dans les Cévennes, bientôt un test aussi.
Alors, l'une des contestations de pour l'instant de ce sujet, c'est que ça va coûter très cher.
Ah,
donc
voilà.
les routes cévenoles sont fréquentées, mais peut-être pas
une densité de
voilà,
véhicules.
Voilà.
Ça sera pas la priorité, sans
non.
doute. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Le seul souci, c'est qu'il faudrait équiper toutes les routes, en tout cas les grands axes routiers, et ça coûterait une fortune. C'est ça le souci. Mais c'est intéressant. Mon cher Antoine, j'ai encore une petite question personnelle. Est-ce que vous êtes un adepte du montage de meubles en kit?
J'essaye en général de faire venir un grand nombre d'amis à la
oui,
maison,
voilà.
Là de montrer le meuble.
Vous leur offrez un
kit,
coup à boire et
quand
voilà,
tout
c'est
le monde
ça.
A bu un petit coup, ouais. On prend le meuble en kit et là voilà, on essaye de regarder.
De le monter correctement.
Voilà.
Non, parce que tout ça, je vous parle de ça parce que Aurore Géraud va nous parler de l'un des maîtres du meuble en kit. Il s'agit d'IKEA.
Mmh.
Voilà, qui propose une opération de com assez sympa.
Oui, assez sympa au Canada, mmh. notamment, qui en fait va inciter ses clients et consommateurs twittos à tweeter absolument pour avoir des cadeaux.
Des cadeaux ?
Des cadeaux.
Oui.
Alors le petit côté amusant, c'est qu'en fait, ils déposent un distributeur dans des enseignes IKEA un petit peu partout sur 2 jours seulement, à fin août là. Et ils demandent en fait, au lieu de mettre une petite pièce dans le distributeur, on leur demande en fait d'appuyer sur un bouton, un code PIN leur est délivré. Et ils doivent le tweeter avec un hashtag, donc sur le fil Twitter d'IKEA Canada, avec un hashtag qui s'appelle Grab the Life by the Catalogue. Et alors la version française est très sympa, c'est morder dans la vie à plein catalogue. Ça n'a aucun sens, mais
ouais,
bon.
D'accord.
Mais c'est très canadien francophone. Et du coup, quand ils ont tweeté ça, le distributeur connecté va capter sur le fil Twitter que le mot de passe
oui.
plus
le hashtag
a été
ouais.
voilà, et va délivrer un cadeau. Un petit cadeau très sympa qui peut aller jusqu'à un chèque cadeau de $250 du coup.
Pas
Donc,
mal.
Sympa.
Mal,
ouais.
Une petite bibliothèque là, paf, hein, grâce à un tweet, c'est rigolo.
Mmh.
Voilà. Alors pour l'instant, ça n'est pas en France. Hein.
Non, non.
C'est
juste
au Canada.
Juste
voilà.
au Canada.
Mais peut-être que c'est une expérimentation qui est menée là-bas et peut-être que ça se généralisera.
On l'espère.
On verra bien. Lila Megraoua, une petite news.
Oui, assez courte.
Oui, oui. D'accord.
Oui. Alors, je vais vous parler de la toute nouvelle imprimante 3D du MIT, qui bonne nouvelle, qui devrait combler d'aise tout designer, puisqu'en fait, elle ouvre la voie vers des créations plus complexes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parce que contrairement aux appareils existants, cette imprimante serait en mesure d'imprimer jusqu'à 10 matériaux en même temps.
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le problème de ces imprimantes 3D, c'est qu'en général, c'est de la poudre de plastique, des
Exactement.
Choses comme ça, enfin des matières assez pas très voilà, pas très nobles ou valorisantes.
Pas très abouties.
Ouais. C'est vrai que ça fait parfois un peu cheap.
Exactement, et surtout pour l'instant, on n'est pas forcément en mesure de réaliser des créations très très complexes, des objets très complexes. Donc en fait, cette imprimante multifab, elle utilise une espèce de mélange, alors là, mot barbare, de gouttelettes de photopolymère microscopique. Et en fait, ce qui lui permet d'imprimer avec encore plus de précision, ça va être c'est une espèce de dispositif de vision artificielle qui est intégré, et en gros l'ordinateur se charge, à partir de ce qui est capté, l'ordinateur se charge de guider l'imprimante 3D. Et donc, ce qui permet à l'appareil de déposer la matière avec précision.
D'accord.
Bon, donc, j'ai pas tout compris,
mais ça doit être bien.
Corrections.
C'est mieux.
Enfin, en gros.
En,
en
gros, c'est mieux.
Voilà.
Très bien. Bon, Antoine.
Oui.
Écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse
Alors écoutez, tout à l'heure je vais vous parler...
Je suis pas très bon à la belote,
non,
si vous voulez,
je vais vous parler tout à l'heure de nourriture lors du crash test qui va être consacré aux flexitariens, et je vais vous en parler tout de suite un petit peu avec une nouvelle assez étonnante. Vous connaissez sans doute le hashtag foodporn.
Ah ben oui, qu'on voit partout,
qu'on voit partout
sur Instagram,
donc,
dès qu'il y a un burger qui est posté,
dès qu'il y a un beau burger, un beau bœuf mironton, etc., dès qu'il y a une belle photo de nourriture, une pauvre sol qui ne sait pas qu'elle est en train de devenir une célébrité mondiale entre deux.
Ça fait un moment qu'elle ne sait plus rien d'ailleurs.
Entre deux pommes de terre et un brocoli. Oui. Enfin bon, voilà. Donc c'est le truc vraiment à la mode. Eh bien, figurez-vous que faire cela va bientôt être considéré comme un délit en Allemagne.
C'est pas vrai.
Tout simplement parce que une décision de la Cour fédérale de 2013 considère que le droit d'auteur s'étend à la nourriture présentée de manière élaborée, et que donc la diffusion urbi et orbi d'une photo de nourriture élaborée est une violation du droit d'auteur. Et donc il y a la possibilité, et apparemment il y a certains restaurateurs qui commencent à s'emparer de cette possibilité, il y a la possibilité pour un restaurateur de poursuivre.
Ah oui,
c'est-à-dire
que je peux pas prendre de photos d'assiettes que je n'ai pas faites. Mais si
Exactement.
Par exemple, c'est moi qui ai fait un burger.
Ah ben non, là il y a pas de problème.
Là je peux
oui,
le faire.
Oui, mais souvent ce sont des assiettes qui sont photographiées dans des restaurants. Alors on nous dit
ils sont bêtes ou quoi? C'est débile, écoute, parce que l'objectif c'est de faire de la pub aussi au restaurant en question.
Écoutez, on nous dit que les tribunaux sont encombrés. J'espère qu'ils n'encourageront pas trop les plaignants.
Oui, mais alors, imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Hein.
Oui.
Hein, vous vous rendez compte, vous avez pris en photo ce burger.
Et là, le gars dit, ou cette purée, par exemple, il dit, non, mais c'est pas la purée de chez Neumann, ça vous dit que c'est rien, c'est la purée de chez Schmitt. Et là, vous avez l'avocat qui va démontrer.
Et puis vous avez l'huissier.
À partir d'analyses granulométriques, que c'est la purée de chez Schmitt qui lui accepte qu'on la photographie.
Et donc là, le participant est débouté, en quelque sorte.
Voilà.
Eh bien, quelle histoire.
Je suis Deb.
Bon, Jean Chambure vous manque, les amis, ou pas?
Oui. Alors, on espère quand même que son arrivée en Chine va faire remonter la bourse chinoise.
Hein. Oh, mais j'en suis persuadé.
Bah oui, moi aussi.
La Chine ne connaît pas encore Jean Chambure.
Non.
Et
mais...
la Chine va changer grâce à Jean Chambure.
Ah, bah, je pense
que c'est clair.
Je pense que oui.
Et nous allons retrouver régulièrement Jean Chambure, évidemment, dans cet atelier, puisque maintenant, il est en Asie. Et ça sera un nouveau rendez-vous qu'on a baptisé Vue d'Asie, hein, Jean de Chambure. Et on va parler de WeChat.
Oui, François. Alors, Vue d'Asie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe depuis la rentrée dans le domaine du digital? Bien, je vous propose de nous arrêter un moment sur la Chine, parce qu'évidemment, c'est le grand pays de l'Asie, là où l'atelier d'ailleurs est, vous savez, à Shanghai, pour parler un petit peu de WhatsApp, mais de WeChat. Alors, pourquoi WeChat? Eh bien, parce que, quelque part, WeChat reflète assez bien la situation dans laquelle la Chine se trouve. La situation dans laquelle la Chine se trouve, on en a pas mal entendu parler dans les médias, c'est en gros un système de transition, puisque le modèle low cost est en train de s'affaiblir petit à petit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que de la compétitivité sur les prix pour faire des exportations. Ils veulent arriver vers plus de qualité et ils veulent développer leur consommation intérieure. Bon, donc ça, c'est en gros ce qui se passe en Chine en ce moment. Eh bien, WeChat, c'est complètement ce qui se passe en Chine en ce moment. Pourquoi ? Parce que d'un côté, WeChat va investir hors les murs, va aller en dehors de la Chine pour investir, et de l'autre côté, WeChat vraiment crée son propre modèle intérieur de développement économique. WeChat, pour vous le présenter un peu plus, c'est l'équivalent pour les connaisseurs de WhatsApp, c'est-à-dire que c'est un système de messagerie instantanée. Vous pouvez l'utiliser très facilement en audio, en texte. Vous pouvez envoyer des tas d'émoticônes. Ça, c'est un des grands jeux des Chinois, de s'envoyer des tas d'émoticônes. Et vous pouvez aussi jouer. Il y a des tas de petits jeux qu'on joue à un ou à plusieurs. Et ils se partagent énormément tout ça. C'est un gros succès en Chine, puisqu'il y a plus de 5 millions d'utilisateurs. Ils sont jeunes, ces utilisateurs. Ils ont en grande majorité moins de 36 ans. Ça a été créé en janvier 2011. Et voilà, ça cartonne de partout. C'est une entreprise qui investit à l'étranger. Alors ça, on le sait un petit peu moins. Ils ont par exemple récemment investi dans une entreprise canadienne qui s'appelle Kick Interactive. Ils ont investi quand même 50 millions de dollars. Alors Kick Interactive, c'est aussi de la messagerie instantanée, donc un modèle proche de WeChat. Ils sont au Canada, pays qui est très près de la Chine, dans lequel il y a beaucoup de Chinois hein, au Canada. Et ils vont regarder évidemment aussi la manière de peut-être mutualiser un petit peu de R&D. Et en tout cas, c'est un investissement participatif. Ils ne cherchent pas à conquérir et à imposer leur vue à Kickstarter, mais vraiment à participer sur le long terme à leur développement. Donc ça, c'est un bel exemple, je trouve, d'investissement hors les murs, comme ce que beaucoup d'autres entreprises chinoises peuvent faire. Et l'autre élément intéressant de WeChat, eh bien, c'est son fameux modèle, son modèle particulier, singulier, qui est assez différent, au fond, de celui qu'on connaît avec Facebook. Avec Facebook, ou même maintenant, on le voit beaucoup aussi avec Twitter, c'est finalement, l'arrivée assez simple de la publicité. Hein. De plus ça va, plus on voit de la publicité qui s'insère au milieu de nos tweets, ou on voit de la publicité sur Facebook. D'ailleurs, moi, je le vois assez peu sur mobile, mais on le voit en tout cas sur le web. Bon, pour ce qui est de WeChat, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes une marque, vous ne pouvez pas acquérir comme ça des bases et des bases de données d'utilisateurs. Il faut vraiment que les utilisateurs s'inscrivent au contenu de ce que vous allez proposer. Donc ça, c'est vraiment la prime, et c'est une belle prime au contenu, à l'originalité, à la singularité de ce que vous allez exprimer. Donc vous avez en fait de la publicité qui arrive de manière indirecte si vous utilisez par exemple des jeux, si vous faites des jeux sur WeChat, ou bien autre possibilité si évidemment vous allez sur le site en tant que tel de l'enseigne. Mais là, c'est tout à fait logique. Donc modèle économique qui n'est pas basé principalement sur la publicité, mais beaucoup plus sur des applications payantes. Donc je vous ai parlé des jeux, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et puis, vous voulez faire du e-commerce, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs de freelance, il y a pratiquement un tiers d'utilisateurs qui sont freelance, eh bien vous allez utiliser des petites applications que WeChat vous propose pour, par exemple, eh bien proposer du paiement, proposer des systèmes de réservation. Voilà, c'est un écosystème de petites applications au sein de WeChat qui font la force de cette magnifique application que j'utilise de plus en plus, et j'en suis vraiment très très heureux. Voilà, vue d'Asie, François.
Merci Jean de Chambure. Allez, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Antoine a préparé ses cyber gadgets, il est prêt, et puis nous aurons aussi le silicone carnet de Nathalie Doré. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Les gadgets d'Antoine dans un instant. Une petite sélection. Il est chaud bouillant. Mais auparavant, direction les US avec notre Silicon Carnet et en compagnie de Nathalie Doré. Nathalie, on va parler des licornes aujourd'hui.
Oui, François, en effet, cette semaine, j'aimerais vous parler des unicorns, alors les licornes en français, dont la presse fait beaucoup l'écho ces derniers temps. Alors, il faut savoir que c'est un terme qui est apparu il y a plusieurs mois hein, déjà dans le monde de la tech et qui englobe tout un ensemble de start-up. Alors, le dénominateur commun entre elles, c'est que ce sont des sociétés privées qui sont valorisées au moins $1 milliard. Alors, cette nouvelle classification de licorne peut amuser, énerver ou même faire peur. Faut savoir quand même qu'une valorisation reflète l'attraction de l'investisseur et le potentiel business de l'idée. Quoi qu'il en soit, ce club ne cesse de s'agrandir. Au printemps dernier, on en comptait 80 et désormais, elles sont plus de 130. Il y a même une classification dans la classification puisqu'on parle de décacorne quand la start-up dépasse les $10 milliards de valorisation. Alors, Brésil, Australie, États-Unis, Chine, Israël, Inde, les licornes sont basées dans le monde entier. À l'atelier, on a voulu en savoir plus et on s'est amusé à faire des petits calculs. Alors, pour l'instant, elles sont dans 17 pays au total. Et devinez quel pays fournit le plus de licornes ? Et oui, les États-Unis, bien sûr, avec 80 startups sur 130. Les USA trustent donc la première place du podium haut la main et représentent 60% des licornes mondiales. Alors, je suis sûre que maintenant, vous vous demandez quelle est la startup qui occupe la première place de ce classement. Bah, là aussi, ça, on retourne aux États-Unis, puisqu'il s'agit d'Uber, qui est valorisé, tenez-vous bien, 51 milliards de dollars. Alors, on va pas pousser le bouchon jusqu'à l'appeler quinquacorne, mais quand même, c'est beaucoup. En deuxième position, c'est Jean qui va être rassuré, l'entreprise chinoise Xiaomi est donc numéro 2 avec une valorisation de 46 milliards de dollars. Et puis, en troisième position, on retrouve un Américain, là encore, Airbnb, avec 25,5 milliards de dollars. Mais au-delà de tous ces chiffres, finalement, ce qui est intéressant de retenir, c'est sur quoi travaillent ces licornes, puisque c'est prometteur et c'est censé donc certainement avoir un impact sur nos vies de demain. Alors là aussi, on a mené notre petite enquête et on a remarqué que ce soit en volume, donc en nombre de startups ou en valeur, donc en additionnant les valorisations, il y a des grandes thématiques qui se dégagent. On retrouve du big data avec une société comme Palantir. On retrouve de la fintech, donc toutes ces startups qui travaillent dans la finance avec des sociétés comme Square sur les moyens de paiement. On retrouve la santé avec des sociétés comme Theranos, dont on a parlé d'ailleurs dans cette émission. Et enfin, une thématique qui est la plus transversale, qui est l'économie à la demande, avec bien sûr Uber, mais aussi son concurrent américain Lyft, ou encore Instacart sur la livraison des courses. Alors, sur cette notion d'économie à la demande, vous savez, ce concept de what I want, where I want, when I want, ce que je veux, quand je veux, où je le veux, s'accélère aux États-Unis et marquera certainement dans les prochains mois la baisse de l'achat de produits et le début de l'achat à l'usage. Alors, 80 startups au printemps, plus de 130 en cette fin d'été. Si ce rythme soutenu se poursuit, on va largement dépasser les 150 en fin d'année. En tout cas, on prend les paris et on a mouillé un peu la chemise pour vous donner notre top 5 composé de startups que l'on suit depuis longtemps et qui, selon nous, vont prochainement faire leur entrée dans le club des licornes. Alors, on retrouve dans le domaine de la santé Flatiron Health, qui travaille sur le traitement du cancer, et Practice Fusion, une plateforme qui facilite le quotidien des médecins. Dans le domaine de l'économie à la demande, bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais on prend les paris sur Moonshery, la start-up qui vous livre dans la journée des bons petits plats, et Stitch Fitch, la plateforme de personal shopping qui livre aux femmes des vêtements personnalisés. Et comme ce secteur de l'économie à la demande va certainement générer beaucoup de besoins de gestion d'abonnement, eh bien, en dernier, on parie sur Zuora, qui aide donc les entreprises de l'économie à la demande de gérer leur vente de services d'abonnement. Voilà, les paris sont pris. Les noms sont donnés, on va suivre tout ça et vous tenir au courant des prochaines licornes.
Merci Nathalie, depuis l'atelier US, et place maintenant à la sélection de cybergadgets d'Antoine Cyr. Antoine, qu'est-ce que vous avez déniché pour nous sur la plage cet été ?
Alors d'abord d'une diversification un peu étonnante mais sympathique de Volkswagen qui s'intéresse non plus seulement aux voitures mais aux poussettes et donc Volkswagen
avec des bébés dedans.
Oui, et Volkswagen a imaginé la poussette du futur qui est une poussette sans chauffeur. C'est délicieux.
C'est-à-dire ?
Eh bien voilà, il n'y a pas besoin de pousser la poussette, c'est une poussette qui est capable de rouler toute seule en évitant les obstacles grâce à un système de freinage automatique intégré. Il y a aussi un capteur de vitesse et de collision qui est ni plus ni moins celui de la Volkswagen Golf. Et puis il y a un petit moteur électrique, voilà.
Donc on laisse le bébé ?
Voilà, alors pour l'instant elle est autonome, j'imagine que si on veut vraiment rendre ça mieux qu'un gag, il faudra quand même l'équiper d'une télécommande. Oui. Mais voilà, après je ne sais pas s'il y a
Ça sert à quoi exactement ?
Ben, je sais pas, ça permet de pas pousser la poussette. Alors, je sais pas après s'il y a beaucoup de mamans qui vont confier leur enfant à cette poussette. Mais imaginez, par exemple, que vous reveniez du supermarché,
oui,
les bras
on est chargé
de commission, et donc vous êtes derrière votre poussette qui va toute seule sur le chemin de la maison. Je sais pas, je pense que l'humanité a assez bien vécu sans, mais en même temps, c'est sympathique
Vous me parlez de poussette. Moi, je préférais la valise.
Oui, bien sûr. Mais de la part de Volkswagen, c'est plutôt rigolo.
Oui,
c'est
sympa. Et puis on parle d'eux.
Et on parle d'eux. C'est le côté sympathique. C'est les mamans, etc. Enfin, non, c'est les papas aussi, parce qu'il y a des papas qui poussent les poussettes.
Forcément.
Mais bon, voilà. C'est le sujet.
Antoine, on vous retrouve tout à l'heure pour la fin de cet atelier avec le Silicon Carnet. Vous restez avec nous, la suite de cet atelier dans une minute. Focus Startup et notre enquête. On va parler de e-learning et de MOOC. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. C'est la rentrée. On est ravis de vous retrouver. Et durant toute cette saison, notez ce rendez-vous, tout comme l'année dernière d'ailleurs, et les années précédentes. L'atelier, c'est chaque samedi 16h-18h sur BFM Business Radio. Tout à l'heure, nous retrouvons notre dossier de l'atelier US et on va parler de robots compagnons. On évoquera le crowdsourcing tout à l'heure. Nous irons du côté de la rédaction de Zéronet.com avec Eric Le Bourlou. Dans un instant, notre enquête de l'atelier, on va parler de MOOC et de EdTech. Mais auparavant, notre focus startup et notre focus startup va évoquer en compagnie d'Aurore Géraud qui est avec nous. Go and to Aurore.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Donc du coup, je suis avec Rabbi Marwen, qui est fondateur de Gowento. Rabbi, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que Gowento derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu abstrait?
En fait, je pense que nous avons tous aujourd'hui un portefeuille numérique sur nous, dans notre mobile, sans le savoir. Sur iPhone, par exemple, il s'appelle Passbook. Et chez Gowento, nous éditons un logiciel qui permet aux enseignes qui ont des points de vente physiques de créer des cartes clients pour ces portefeuilles numériques. On a tous des smartphones et du coup, c'est un enjeu stratégique pour les enseignes d'être présentes dans ce smartphone. La plupart, quand elles se sont intéressées à cet enjeu-là, ont regardé, se sont penchées sur le développement d'une application mobile spécifique. Et au-delà des coûts que représente le développement et la maintenance d'une certaine application, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'usage est très compliqué à imposer, dans le sens où 9 utilisateurs sur 10 utilisent moins de 10 applications régulièrement. 6 utilisateurs sur 4 utilisent moins de 4 applications. Dans ces applications, il y a la météo, il y a Facebook, il y a les emails, un jeu probablement. Et du coup, les places sont très très chères. Chez Gowento, très vite, pour nous, c'était un enjeu d'avoir un positionnement qui, au lieu d'être une énième solution qui passe par une application tierce ou qui propose le développement d'une application mobile, exploite ou plutôt permet aux enseignes d'utiliser une application qui est souvent préinstallée sur les smartphones, à savoir le portefeuille numérique. Et en fait, cette carte client qu'on leur permet de créer par notre logiciel, ça devient un point de contact permanent qu'ils peuvent mettre à jour, ils peuvent envoyer une notification aux clients quand il y a une actualité, ils peuvent communiquer sur leurs offres, sur leurs ventes privées. Si je cite quelques-uns de nos clients, récemment avec l'Occitane, on a démarré la collaboration par justement à l'occasion des soldes. Ils ont fait une offre sur une partie de leurs clients et aussi pour acquérir de nouveaux clients. Et en gros, les consommateurs, en découvrant l'offre sur Facebook par exemple, en cliquant, en fait nos serveurs vont générer une carte avec une invitation à cette offre qui va s'ajouter au portefeuille sans passer par l'installation d'une application. Et après, l'utilisateur, quand il passe en boutique, il peut profiter de l'offre. Et l'Occitane, à partir de ce moment-là, a la possibilité de mettre à jour cette carte et d'informer le client de la suite de sa relation avec l'Occitane.
Alors sinon, vous êtes incubé au Y et votre parrain est donc Chantel, la marque de lingerie.
Lorsque on a démarré l'aventure, très vite, on s'est intéressé aux accélérateurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'atelier lançait son accélérateur, donc Innovent Connect, et il avait la particularité de mettre en relation donc une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, avec une start-up. Et donc pour nous, voir le nom du groupe Chantel dans la liste des parrains, on s'est dit, c'est vraiment un groupe qui a plusieurs enseignes, un réseau comme Orkanta ou encore comme Darjeeling, qui est en plein dans le cœur de cible finalement de ce que nous développons. Et à partir de ce moment-là, il faisait plus de doute, il fallait qu'on soit candidat à cet accélérateur. Voilà, on a fait partie de la première sélection de cet accélérateur qui dure 6 mois. Et la relation avec le groupe Chantel est très intéressante depuis le début parce qu'ils ont à la fois un rôle de par le directeur du digital, Guillaume Kretz, qui est un rôle de mentoring, qui va nous accompagner, nous conseiller. Mais par ailleurs, il nous a mis en relation avec un certain nombre de directions du groupe, à la fois pour éprouver notre solution, et donc dans une logique purement, on va dire, commerciale, mais aussi pour des aspects techniques, pour mieux comprendre les enjeux d'un tel groupe qui a plusieurs enseignes.
Merci beaucoup, Rabbi Marwen de Gowento. C'était le Focus Startup. À bientôt.
À bientôt.
Aurore, merci. Place à notre enquête de l'atelier, ma chère Lila Megraoua. Nous allons évoquer les MOOC et EdTech en ce samedi après-midi.
Exactement. On va devenir, redevenir studieux avec cette rentrée scolaire qui se présente.
Cela dit, on peut utiliser des MOOC à la plage aussi. Ça peut être sympa.
Tout à fait. Hein? Ou tout simplement en entreprise.
En entreprise aussi.
Alors, on va faire un point sur un secteur plus que prometteur, comme on va le découvrir. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Svenia Busson. Bonjour.
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 Svenia Busson, vous avez cofondé le EdTech World Tour. On reviendra sur le concept tout à l'heure. Vous allez entamer dès cet automne, pour faire court, un tour du monde des écosystèmes, initiatives EdTech à travers le monde. Jean-Marc.
Et puis on reviendra peut-être aussi sur le thème d'EdTech, hein, qui n'est pas forcément connu de tous.
Oui, alors EdTech, pour faire une définition assez assez courte, et on posera la question à nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition, c'est plus ou moins les nouvelles technologies liées, enfin appliquées au secteur de l'éducation.
Bien sûr.
Deuxième invité, je pense que nos auditeurs devraient connaître ce nom leur est sûrement plus que familier. Jean-Marc Tassetto, bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour,
vous avez dirigé Google France, donc c'est aussi pour ça qu'on, qu'on vous connaît. Et vous avez cofondé fin 2013 Corp Academy, une plateforme de MOOC dite B2B. Et vous avez lancé un MOOC, entre autres, autour de la culture digitale. Alors, aux États-Unis, il existe une vraie frénésie EdTech. Pour donner un chiffre, en 2014, les levées de fonds des startups EdTech ont dépassé le milliard de dollars. En France, on a quelques exemples, dont justement Corp Academy, mais le secteur est encore, dit-on, balbutiant. Est-ce que vous partagez ce constat et à quel besoin répondent vos concepts ? Jean-Marc Tassetto.
Alors, moi, je trouve qu'on a un peu tendance à se flageller. C'est-à-dire que la France, côté universitaire, a quand même été capable de lancer très vite des plateformes comme France Université Numérique. Il y a un peu plus de 70 MOOC actuellement. MOOC, c'est Massive Open Online Courses. Hein. Donc, ce sont des plateformes de diffusion massive de connaissances en ligne. Et dans le domaine de la formation continue et corporate, je vais parler de Corp Academy, on s'est créé il y a 2 ans, on a fait une levée de fonds assez rapidement en novembre 2014, on a fait plus de 2,5 fois de croissance de chiffre d'affaires l'année dernière et on va encore doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine. Il y a un certain nombre d'acteurs, donc moi je pense que la France n'est pas du tout en retard.
Et à qui vous vous adressez, Jean-Marc, avec vos cours aujourd'hui ? À quel type d'entreprise ?
On s'appelle Corp Academy parce qu'on ne s'adresse qu'aux entreprises. Dans un premier temps, on a fait un choix qui était quasiment un choix de modèle économique, du B2B grand compte, donc on jargonne beaucoup, mais donc un modèle où on s'adresse aux grandes entreprises qui ont des besoins de formation à l'échelle de la planète. Mmh. Donc c'est Engie, au départ c'était GDF Suez, quand Gérard Maestralet a souhaité, Isabelle Cocher, utiliser notre plateforme pour former 140 000 collaborateurs sur l'ensemble de la planète, c'était par rapport à des enjeux de transformation et des enjeux de transformation à la vitesse du digital. Même chose pour Renault, même chose pour TAG Heuer. On vient de lancer un MOOC pour cette filiale du groupe LVMH pour former 20 000 commerciaux à l'échelle de la planète. Donc voilà qui sont nos interlocuteurs. On est très fiers de nos clients, la Fédération Française de Football, SFR, enfin pour tout un tas de...
Vous apprenez pas les joueurs à jouer au foot quand même.
Non, mais on apprend les règles d'hygiène. L'idée là est de former les dizaines de milliers de bénévoles, d'associatifs qui font vivre le football en France. Qui animent plus de 2 millions de licenciés, le million de matchs.
Mais vous vous adressez qu'aux grosses sociétés, style Engie, vous le disiez, ou aussi aux PME?
Alors ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui, puisque on s'est dit à un moment donné, on a plus de 200 000 apprenants sur notre plateforme. Encore une fois, dans certains cas, 20% des apprenants sur une plateforme d'un client proche sont aux États-Unis, hein, donc à l'échelle de la planète. Et on s'est dit, c'est quand même dommage que les PME, les TPE, soient quelque part exclus de cet accès à la connaissance et à la compétence. On vient de lancer corpacademy.com, qui est une plateforme où on peut acheter tout ou partie de notre cours sur la culture digitale. Et l'idée, c'est que toute personne, y compris un individu, puisse acheter un module. Ça peut être un chapitre à 1,99€. Suivre ce module, soit sur son smartphone, soit sur sa tablette, soit sur son PC au travail, ou à la plage. et développe ses propres compétences. L'enjeu de fond, c'est en développant mes compétences, je maintiens mon employabilité. Mmh. Donc l'objectif ultime, c'est quand même l'employabilité.
Vous disiez, Jean-Marc Tessesto, à propos de ce fameux secteur potentiellement balbutiant en France, ne nous flagellons pas par rapport aux États-Unis. Svenia Busson, est-ce que vous partagez également cette idée ?
Il faut faire attention quand on se compare aux États-Unis, parce qu'on ne parle pas vraiment du même marché. Alors, bon, il y a quand même un énorme gap entre ce qui se passe ici et là-bas. Rien que le premier semestre en 2015, les startups EdTech américaines ont quand même levé 1 milliard de dollars. C'est ce qu'ont levé les startups françaises, tout secteur confondu, en 2014. Donc, certes, c'est pas le même marché, mais il y a quand même un énorme gap. Donc, il y a des choses très bien qui se font en France, mais disons que au niveau de tout ce qui est accès au financement, il y a encore des gros efforts à faire, je pense.
Et pourquoi sommes-nous en retard comme ça par rapport aux États-Unis ? Culturellement, ils ont plus l'habitude de ces cours en ligne. Voilà, on a l'impression qu'il y a une différence, quoi, que nous, on a quelques années de retard par rapport à eux, non, Jean-Marc ?
Alors, et Svenia, n'hésitez pas à compléter. Il y a un rapport au e-learning aux États-Unis qui est pas du tout celui qui est en Europe. Le e-learning en Europe est un échec complet. Il y a moins de 10% des salariés européens en moyenne qui ont accès au e-learning. Ça existe depuis 30 ans. C'est des protocoles pédagogiques totalement obsolètes. C'est-à-dire suivre une vidéo pendant 50 minutes, cliquer sur des slides. Et je peux pas m'arrêter, même si je dois répondre à ma patronne ou à mon patron, ou sinon faut que je reprenne tout du début. Vous rajoutez des serious games, et ainsi de suite. Enfin bon, ça a dégoûté.
C'est pas sexy, quoi, entre
guillemets. C'est pas sexy, et surtout avec une génération d'internautes, quel que soit l'âge de l'internaute, vous pouvez plus faire rentrer quelqu'un dans un système gamifié qui n'est pas du vrai game. Enfin, à l'ère de Duolingo, de QuizUp ou d'Angry Birds, ça veut dire quelque chose quand vous parlez de gamification sur les protocoles d'apprentissage. La deuxième chose qui est en train d'émerger, et on le voit, nous avons la chance d'être sur le campus de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui va avoir bientôt 1 million d'étudiants en ligne. Donc en ce sens, il n'y a pas de retard par rapport à des edX ou à des Coursera qui sont nés sur les campus du MIT d'Harvard ou de Stanford. C'est de l'apprentissage collaboratif. Et nous avons à notre capitale le professeur-chercheur Pierre Dinimbourg, qui est une sommité mondiale en matière d'apprentissage collaboratif. Donc tout ça, ça veut dire évidemment du réseau social qui arrive sur les plateformes d'apprentissage. Donc il a fallu refonder le protocole pédagogique en ligne et redévelopper des plateformes toute neuve de la génération du web et pas de la génération du score mais des standards des années du début des années 2000 parce que il faut remettre l'apprenant au cœur du dispositif. Or l'apprenant jusqu'à présent sur les anciennes plateformes c'est un apprenant qui s'est ennuyé, qu'on a désengagé. Le rapport e-learning aux États-Unis c'est beaucoup plus simple là-bas. D'abord, il y a un territoire de 300 millions d'habitants, vous rajoutez encore 200 millions d'anglophones, vous avez un marché adressable de 500 millions de personnes en une langue. Et la deuxième chose, c'est que quand il faut suivre un cours, j'en sais quelque chose en étant passé par Google, c'est mandatory. Il faut, c'est de la compliance. Il faut dire j'ai suivi le cours. Donc on va pas chercher des enjeux d'engagement.
Oui, on vous fait confiance.
On vous fait confiance. Surtout, c'est obligatoire, donc oui, faut le faire.
Voilà, c'est ça.
Or nous partons d'un postulat qui est non, on va réengager les gens sur la base du volontariat parce que c'est fun et parce que apprendre à plusieurs c'est plus simple qu'apprendre tout seul.
Svenia Busson, vous partagez également
ce point de vue ?
Tout à fait. Je pense que c'est une question d'expérience utilisateur. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes e-learning qui, jusqu'à présent, n'étaient pas assez engageantes, comme vous le disiez. Et l'apprenant doit se sentir concerné par le cours qu'il regarde et il doit pouvoir aussi choisir les parties qu'il a envie de regarder en premier. De faire son propre curriculum, si je puis dire. Et ça, ce n'est apparu que dans les dernières années. Il n'y avait pas ça avant, qu'on mettait vraiment l'apprenant au cœur. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, tout à fait.
Si on prend vos deux initiatives, à la fois Corp Academy et l'EdTech World Tour, est-ce que ce que ça dit, c'est pas que le salut viendrait des startups ? Est-ce que quelque part, c'est pas à l'État d'y répondre, Svenia ?
Alors, moi, je pense qu'en France, il y a deux tendances. L'institutionnel, l'État s'y met peu à peu, avec par exemple le plan numérique pour l'éducation, comme vous le disiez Jean-Marc, avec FAN, la France Université Numérique, il y a des très bonnes choses qui sont faites. Mais je pense réellement qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des entrepreneurs, que j'appelle les édupreneurs, les entrepreneurs de l'éducation, qui sont en train de disrupter complètement la façon dont on pense l'éducation et la façon dont on la perçoit. J'ai un exemple concret, par exemple, dans le secteur des cours particuliers. Live Mentor est en train de complètement changer la façon dont on pense les cours particuliers. Jamais, il y a 5 ans, vous m'auriez dit, vous allez donner uniquement des cours particuliers via vidéoconférence. Aujourd'hui, c'est ce que je fais grâce à leur plateforme. Et je vois que les élèves sont beaucoup plus concentrés, ils sont avec moi, je ne les perds pas pendant le cours. Et c'est vrai que je me disais, jamais les parents accepteraient de faire faire à leur enfant des cours particuliers avec une inconnue complète qu'ils n'ont jamais vue en personne. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. C'est une certaine croissance et leur concept plaît beaucoup. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces entrepreneurs qui commencent des choses, qui n'attendent pas que les choses se passent, qui commencent eux-mêmes dans une équipe de 2, 3, 4 personnes à créer un produit parce qu'ils ont une vision, une philosophie, et ça a une très grande force.
Jean-Marc Tassetto.
Alors, moi je suis un libéral, je sais que c'est un gros mot, mais quand même, je crois aux écosystèmes. Un écosystème qui rapproche les laboratoires de recherche des universités, des entrepreneurs, des fonds d'investissement. Donc, le rôle de l'État peut être éventuellement de désiloiser et de faciliter l'émergence de ces écosystèmes. Nous sommes en Suisse romande, c'est-à-dire en gros, c'est des cousins, sur un campus d'université. Nous avons des accords et des programmes avec les laboratoires, avec des chercheurs en ingénierie pédagogique de classe mondiale. Et nous sommes incubés, hébergés sur un campus qui a accueilli 100 entreprises. Je pense que les efforts doivent être d'ordre écosystémique.
Voilà, Corp Academy, hein, pour retrouver tous ces cours en ligne.
Et l'EdTech World Tour, d'ailleurs, est en train de lever des fonds sur Indiegogo ou Kickstarter. On mettra le lien sur le compte Twitter de l'émission. Jean-Marc Tassetto, merci.
Merci à vous.
Et Svenja Buisson, merci.
Merci beaucoup.
Mais de rien, merci.
Et on revient dans un instant à la suite de cet atelier, direction l'atelier US, hein, Lila. Nous retrouverons Romain Chaperon, on va parler de robots compagnons. Direction San Francisco, dans une minute. Vous restez avec nous, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business chaque samedi, donc 16h-18h, c'est votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Notre passion selon Sanette, dans un instant, on va parler de crowdsourcing, de crowdshipping, mais aussi de crowdshopping. Eh oui, les internautes reprennent le pouvoir, on va en parler avec nos invités. French Tech Tour, World Tour aussi dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, c'est notre dossier de l'atelier US. Vous savez que l'atelier est présent aussi à San Francisco, et on va parler de robots compagnons avec Romain Chaperon.
Rodos Hasselvander, bonjour.
Bonjour Romain.
Vous êtes le CEO de Bluefrog Robotics, start-up française qui s'apprête à lancer Buddy, qui est un robot compagnon. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la genèse de ce projet ?
Bien sûr. Moi, je suis ingénieur en robotique et je dirige un labo de recherche en robotique depuis une dizaine d'années, qui a développé plein de technologies avancées dans des robots pour des professionnels. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser tout ce background en robotique pour le transférer dans un produit grand public et essayer de démocratiser la robotique. Et voilà comment est né le projet Buddy.
Alors, Buddy, c'est un objet, un robot. C'est aussi un logiciel, c'est de la reconnaissance vocale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Buddy fonctionne ?
Alors Buddy, en fait, est basé sur une tablette Android qui a un choix stratégique parce qu'à la fois, ça permet de réduire les coûts, mais c'est aussi très intéressant parce que finalement, maintenant, tout le monde sait se servir d'une tablette. Et les robots qui sont quand même un petit peu en rupture maintenant, bah, si c'est un robot qui fonctionne avec une tablette, finalement, ça fait un peu moins peur parce qu'on saura servir du robot. Donc on a une tablette, on exploite la caméra de la tablette qui vont être les yeux du robot, le micro de la tablette avec lequel il va écouter. Et puis finalement, tout l'écosystème Android, même l'App Store, le magasin, on en parlera peut-être après, mais on utilise en tout cas tout ce qui est déjà intégré dans Android. Et puis cette tablette va communiquer avec des actionneurs donc qui vont faire bouger les roues, bouger la tête du robot, hein, qui a deux axes, il peut dire enfin axe oui, non, il a un coup, etc. Donc on va contrôler tous ces moteurs, on va récupérer les informations des capteurs, les capteurs de distance, de température, etc. Et tout ça est connecté à la tablette et donc permet d'avoir une application Android qui est le cerveau du robot et qui va le rendre intelligent.
Alors justement, Buddy, c'est un robot open source. Pourquoi avoir fait ce choix ?
L'idée, surtout pour une start-up comme nous, c'est de pouvoir toucher le maximum de monde, que notre robot, qui est à la fois un produit mais qui sera aussi une plateforme pour des développeurs demain, puisse être demain inondé d'applications. Et donc l'idée, c'est de dire on ouvre au maximum le robot pour que n'importe quel développeur puisse faire ses applications, les distribuer donc via le Google Play et finalement en faire le smartphone de demain avec le même écosystème d'applications plus ou moins qualitatives mais qui font vivre la plateforme. Et on a même choisi des outils de développement qui sont vraiment pas du tout spécifique à la robotique, mais plutôt utilisé par tous les développeurs actuellement qui font des applications smartphone. Donc on utilise Unity 3D, qui est le leader mondial. Donc on est le premier robot à utiliser Unity 3D. Et donc potentiellement, on a 1 million de développeurs qui peuvent demain faire des applications pour le robot et qui lui donneront encore plus de valeur, vu que ça permettra d'avoir d'autres applications que nous-mêmes n'avons pas développées.
Alors vous êtes actuellement de passage aux États-Unis, vous vous apprêtez à ouvrir un bureau à Boston, un autre à San Francisco ici. En quoi c'est important pour une société comme Bluefrog Robotics de s'implanter aux États-Unis justement ?
Honnêtement, le marché de la robotique, bon, on voit qu'on a quand même un très bon impact en France. Ouais, les gens sont très réceptifs parce que quand on voit la campagne de crowdfunding, on a eu quasiment 50% viennent de France, mais justement, c'est finalement assez rare une campagne de crowdfunding. Normalement, c'est 80% d'Américains, ou entre 70 et 80%. Donc, on pense qu'on n'a pas encore atteint assez les États-Unis. Et la raison, c'est parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur place. Donc, l'idée, c'est de venir s'implanter à Boston, qui est la mecque de la robotique aux États-Unis, avec le MIT, etc., pour pouvoir rassurer les Américains, montrer qu'on a une présence ici. Et donc, ce qu'on a découvert en venant aux États-Unis, c'est que finalement la côte Est et la côte Ouest se parlent pas tant que ça. C'est pour ça qu'on vient aussi ouvrir des bureaux à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour vraiment pouvoir être présent sur une grande partie finalement du territoire nord-américain.
Alors vous êtes venu avec Buddy, il est à côté de moi, et en le regardant, je l'imagine assez bien devenir au quotidien un compagnon des familles. D'ailleurs, il a une apparence assez humaine. Ce qui peut amuser ou faire peur. Pourquoi vous lui avez donné cette apparence humaine ?
Alors nous, on dirait pas qu'il a une apparence humaine, parce que justement, comme vous le dites, être trop près de l'humain, ça peut faire peur. Donc, alors on est plus dans un objet connecté, parce qu'il a quand même une tête, un cou, un visage assez sympa, mais on reste dans le côté plutôt mignon, cute, avec un visage qui est plutôt, enfin, ce qu'on appelle un peu kawaii, un peu sympa, et qui a la taille finalement d'un animal de compagnie, parce qu'on a fait beaucoup d'études. On avait d'autres prototypes de robots avec des designs un petit peu différents. Donc on a fait beaucoup de tests et c'est ce qui est ressorti comme étant le plus sympathique, qui est la clé finalement si on veut pouvoir demain mettre des robots chez les gens. L'acceptabilité, c'est vraiment le point le plus important, et on a pu constater qu'avec ce design là, c'est là où les gens sont le plus réceptifs, et vraiment ils viennent voir le robot, on crée une relation émotionnelle avec les gens, il y a une empathie qui se passe, et c'est le point clé pour un des robots compagnons de demain.
Les robots domestiques pose également des questions de privacy, de protection des données. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
À nous, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille énormément, parce qu'en effet, c'est très important de pouvoir rassurer les gens sur le fait qu'en effet, ils vont avoir un robot demain chez eux qui potentiellement peut voir ce qu'ils font, etc. Donc nous, on travaille déjà avec un laboratoire sur vraiment la sécurisation des données pour pas qu'ils puissent se faire hacker, etc. Mais même plus globalement, nous, on n'envoie aucune information, aucune donnée personnelle sur Internet, sauf si bien sûr c'est les gens qui le décident. Donc ça va des choses très simples comme le robot a pris une photo, est-ce que tu veux que je le partage sur Twitter ou Facebook ? Il va demander forcément l'accord de la personne. Et puis après, sur ce que le robot a pu voir ou apprendre de la famille, le robot leur demandera est-ce que vous êtes d'accord pour partager ou pas vos informations personnelles, mais de base, le robot n'envoie aucune information sur la vie des gens quand vous l'avez. Donc vraiment, on essaie d'être très clair là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui se filtre en dehors de la maison, sauf si bien sûr c'est vous qui le demandez.
Rodolphe, merci. Romain, merci. Voilà, c'était notre rendez-vous depuis San Francisco, et on revient tout de suite pour la suite de cet atelier numérique avec notre passion selon Sanet. On va parler de crowdsourcing dans une minute, à tout de suite.